Et le jour du mariage, elle me regarde et elle me dit « Fabrice, vous n'aurez pas un centime. »
Quand dans sa vie on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. Continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf-plouf morbide tranché, continuer à vivre, d'accord. Mais comment ? Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air. Et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour Fabrice.
Bonjour Sarah.
Tu as une cinquantaine d'années. Petite cinquantaine d'années, non ? Je me trompe ?
Non, on est dans ces eaux-là. Ouais.
On est dans ces eaux-là. Est-ce que tu peux me raconter ton enfance et qui t'élève dans les premières années de ta vie ?
Je suis élevé par des grands-parents, ce qui ne me surprend pas à l'époque, puisqu'on ne se pose pas beaucoup de questions quand on est tout petit, et par des grands-parents très classiques, je dirais, dans le type famille italienne des années 50-60, c'est-à-dire avec un grand-père très autoritaire, en même temps très présent, et une grand-mère très effacée, mais très aimante. Et pendant toute cette enfance, je grandis dans un... sans me poser vraiment de questions, et en ayant une vie plutôt bien réglée, agréable et bien rythmée, avec simplement parfois le côté un peu désagréable des enfants de province qui me disent que je suis un Italien, un Panzani, un Lustucru. Enfin, j'ai droit à ce genre d'étiquette parce que dans les années 60, c'était encore un peu compliqué. Et puis certains qui me font remarquer que je n'ai pas de papa. Et ça m'étonne pas beaucoup finalement, puisque mon grand-père faisait très bien ce rôle.
Donc ça veut dire que c'était les parents de ta maman ?
C'était les parents de ma mère, effectivement, qui n'étaient pas là, que je voyais le week-end de temps en temps. Et encore une fois, c'était une forme de normalité que j'appréciais, puisque ma grand-mère était très chaleureuse, très italienne, et on avait des rapports tout à fait agréables, et elle m'aimait beaucoup.
Tu sais pourquoi tu as été élevé par tes grands-parents ?
Ça a pris quelques années, je ne l'ai pas su tout de suite, ça a été un peu une surprise. Et j'ai fini par comprendre, aux alentours d'une dizaine d'années, en fait, que ma mère n'avait pas les moyens, tout simplement, de s'occuper de moi et qu'elle avait laissé ses parents, mes grands-parents, s'occuper de moi puisqu'elle m'a eu quand elle était très jeune. Elle avait une vingtaine d'années et elle n'avait pas les moyens financiers de s'occuper de cet enfant qu'elle n'avait pas voulu.
C'est un acte d'amour de sa part.
J'ose espérer que c'était un acte d'amour. Je sais que ça a été une période douloureuse pour elle, mais c'est des choses, on met beaucoup de temps à s'en apercevoir. Et on a eu des rapports après très compliqués, puisque je suis allé vivre avec elle quand je suis rentré en sixième.
D'accord. Donc, à 11 ans, tu pars de chez tes grands-parents, et elle habite seule, ta maman, à ce moment-là ?
Elle habite seule, elle n'a pas du tout l'habitude de s'occuper d'un enfant, elle est extrêmement indépendante, elle a encore pas tout à fait 30 ans, si mes souvenirs sont bons. Et nos relations sont pas très simples et pas très agréables, ce qui me fait un choc, puisque j'ai vécu une dizaine d'années dans quelque chose qui me paraissait tout à fait naturel, agréable, et que tout à coup, je me retrouve à une dizaine d'années dans un milieu totalement différent, avec une mère qui est pas ravie de me voir, parce que je perturbe sa vie, dans un nouvel environnement, dans une nouvelle ville, avec des nouveaux camarades. Et ça va un peu me déstabiliser pendant mon adolescence, mais bon, ce sont des choses qui arrivent.
Tu es un bon élève ?
Oui, plutôt un bon élève. Je suis plutôt bon en langue, en matière littéraire, je suis curieux, je lis beaucoup. Et c'est des choses... je suis pas un très grand scientifique, mais oui, j'avais plutôt des bonnes notes et dans ma scolarité... J'étais pas obligatoirement l'élève le plus discipliné de la bande, mais je garde plutôt un bon souvenir aussi bien de l'enseignement catholique que de l'enseignement laïque en lycée.
Un jour, à l'adolescence, ta mère te fait une proposition.
Effectivement, elle me dit, alors que nos rapports sont déjà un peu complexes, puisque j'ai beaucoup de mal à lui montrer de l'affection, elle a aussi beaucoup de mal à me montrer de l'affection, donc l'adolescence est un peu compliquée, on se dispute, elle a sa vie, on est dans un milieu culturel très vivant, avec des artistes, des cinéastes, des musiciens, il y a toute une vie culturelle, il y a
Elle
des...
est artiste, ta maman?
Elle est professeure. Elle est professeure, mais elle va vivre assez rapidement avec un monsieur qui s'occupe de cinéma et qui fait des festivals de cinéma où il y a pas mal de réalisateurs italiens, justement, on est dans les années 70. Je sais pas, des Ettore Scola, les frères Taviani, enfin, toute une génération de
Ah ouais.
réalisateurs italiens et français, d'acteurs, Jean-Louis Trintignant, etc., Bernadette Lafont. Et je baigne un peu dans ce milieu très culturel des années 70, très à gauche,
C'est ce que j'allais dire, ouais.
justement, passionnant à vivre parce qu'il y a des profils très différents, donc c'est intéressant pour un adolescent, on voit des gens très très différents. Et effectivement, je grandis dans ce milieu et elle me dit un jour, est-ce que ça t'intéresserait de rencontrer ton père, dont je n'avais jamais entendu parler?
Elle te le dit comme ça, entre la poire et le fromage, comment elle te fait cette proposition, cette annonce?
Eh bien, oui, puisque effectivement, nous n'en avions jamais parlé, aussi bien mes grands-parents que ma mère.
T'avais jamais posé de questions?
Je n'avais jamais posé de questions. C'est peut-être la merveille de l'enfance. On ne se pose pas de questions quand les grands-parents sont aimants, qu'il y a un grand-père qui joue son rôle paternel, finalement. Et effectivement, bah, je m'étais peut-être posé la question une ou deux fois, mais finalement, j'avais répondu à mes petits camarades de classe, mon père, il est mort, et puis ça réglait la question.
Ah oui, d'accord.
C'était, voilà, et puis ça me permet de ne pas y réfléchir. Je me disais, bah, il n'est pas là. Voilà, j'ai autre chose à faire que me préoccuper d'un père qui est absent. J'avais un grand-père et j'avais un beau-père, entre guillemets, qui finalement remplissait plutôt bien ce rôle.
Il était gentil.
C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas une question de gentillesse, mais c'était des gens intéressants. C'était des gens. Mon grand-père était gentil et rigoureux à l'italienne. Je sais pas si tu connais le film Padre Padrone,
Non.
qui est un père italien très très strict, très taiseux, et dont la première phrase dont je me souviens, c'était Magna et tazzi, mange et tais-toi. Donc ça, c'était pas un grand débatteur et quelqu'un avec qui on discutait beaucoup. Contrairement ensuite à ce que j'ai vécu avec ma mère, où on était dans des milieux où la parole était libre, où les opinions étaient variées et les engagements politiques intenses. Et où justement, ça me permet de m'ouvrir un peu au monde et de découvrir plein de choses fascinantes. Et arrive ce jour où elle me parle d'un père que, effectivement, je n'avais jamais envisagé même.
Donc tu découvres par là même que ta mère sait qui est ton papa et qu'elle a jamais perdu le contact avec lui.
Je découvre que j'ai un père, que ma mère le connaît, et en fait, je me pose pas encore la question du contact dans le temps.
D'accord.
C'est pas la question que je me pose ce jour-là. J'ai 14 ans, je suis adolescent dans une période pas compliquée de la vie. Adolescent, on se pose beaucoup de questions, c'est très conflictuel. Voilà, on se pose plein de questions sur l'avenir, les femmes, l'amour, les livres, l'engagement politique. Et mon père arrivait un peu là-dessus, comme quelque chose de totalement inattendu.
Et donc, tu acceptes cette rencontre?
J'accepte, je me pose pas trop la question. Il m'est pas venu à l'idée de refuser de le rencontrer, mais je me souviens d'une perplexité immense quand je me retrouve au café, en terrasse, à attendre et où je me
Et
dis,
on est en
mais
quelle saison?
si mes souvenirs sont bons, on doit être à l'été.
Ok.
On doit être en été, effectivement.
Et donc, t'es en terrasse avec ta maman?
Je suis en terrasse avec ma mère et j'attends, je me pose un peu des questions sur à quoi il va ressembler, comment il va parler. Et je vois arriver une espèce, si mes souvenirs sont bons, une Fiat Cinquecento, le toit ouvert, et quelqu'un qui me fait des signes, enfin qui nous fait des signes, qui est habillé de façon un peu originale, avec des très colorés, avec des foulards, des lunettes de soleil, et assez flamboyant. Assez flamboyant, mais en même temps pas très à l'aise, je remarque assez rapidement.
Ce que tu décris, j'ai l'impression de voir arriver Elton John dans un village, quoi.
Je caricature.
Disons que le, dans le sud, dans la ville où on était, dans les années 70, oui, Elton John peut être, peut, a des airs de familiarité, oui.
D'accord.
Puisqu'effectivement, c'était, avec un foulard, je crois, Coca-Cola, une veste qui devait être crème, enfin, des couleurs qui n'étaient pas celles que qu'on porte habituellement dans, dans le sud, une attitude très, à la fois très joyeuse et en même temps on sent que c'est très forcé, mais bon, finalement c'est normal, c'est pas simple.
Et donc comment se passe cette première rencontre ?
Pas si mal, puisqu'on se parle, mais finalement, je me souviens d'aucun des mots qu'on ait échangé. C'est-à-dire que je suis tellement tétanisé par la rencontre, je le regarde, je me dis, qui est ce monsieur ? Pourquoi est-ce qu'il est là ? Comment je dois m'adresser à lui ? Et tout ça tourne dans ma tête d'adolescent, parce que c'est des questions que finalement, je m'étais jamais posées. Et finalement, les mots qu'on a prononcés, je m'en souviens pas, il y a une espèce de brouillard. Et je crois pas qu'on se soit dit des choses fascinantes, puisque l'idée c'était vraiment de se voir pour la première fois. Et arrive déjà ce moment où à la fin de notre échange, je me dis comment je l'appelle. Est-ce que je l'appelle père? Est-ce que je l'appelle par son prénom? Et je l'appelle maladroitement papa, et je vois bien que ça fait une gêne à table considérable, parce que c'est trop finalement.
Ouais.
Et en même temps, je suis en train de me dire, bah, j'ai un père, il va bien falloir que je trouve un moyen de lui parler. Et c'est le début d'une relation très bizarre.
C'est quoi l'étape d'après ? Vous dites que vous allez vous revoir, vous vous écrivez, vous vous appelez. Il se passe quoi à la suite de ce rendez-vous ?
Au fur et à mesure, on va établir des liens. Il va m'aider à voyager. Ce que j'avais jamais fait quasiment auparavant.
Donc ça veut dire qu'il t'emmène en voyage ou il t'offre des voyages ?
Alors il m'offre des voyages linguistiques aux États-Unis, en Irlande. On va passer des premières vacances ensemble à la montagne, où il essaye de...
Comment ça se passe ?
Étonnamment, plutôt bien, tant que je ne faisais pas de ski. C'est-à-dire que j'ai un souvenir assez agréable des soirées qu'on passe ensemble. Et un souvenir terrifié de sa façon d'essayer de m'apprendre à faire du ski, puisqu'il me dit « Mets-toi sur les skis, prends les bâtons et descends cette piste noire. » J'ai jamais fait de ski de ma vie et je suis horrifié. Et donc, il a ce côté où on peut avoir des rapports chaleureux et on peut parler ensemble le soir. On va au cinéma ensemble pour la première fois. Je me souviens, je l'ai traîné voir... Le Seigneur des Anneaux, en version dessin animé de Ralph Bakshi, qui passait à l'époque, parce que c'était un livre qui me plaisait beaucoup, et je voyais bien que c'était pas du tout son truc, mais il m'emmène. On passe la soirée, on discute, et je me souviens en particulier de cet épisode, parce que lorsque je reviens, c'était des vacances d'hiver, et au lycée, on a un exercice qui est « Ah, bah racontez vos vacances d'hiver !» Et je suis un bon élève, et je me dis, bah, je vais raconter cette rencontre avec mon père, parce que c'est ma première sortie avec mon père, je vais mettre ça dans le devoir. C'est un peu naïf, c'est un peu particulier, et je fais un long travail où je rédige mes vacances, mes premières vacances avec mon père.
C'est hyper émouvant.
Disons, c'était déjà un moyen, je crois, de passer par l'écriture,
ouais,
pour essayer de mettre un peu tout ça en forme. Et... je me souviens très bien, parce que j'avais de bonnes notes en français, j'étais un bon élève, je rends mon devoir en me disant « Oulala, je sais pas du tout ce que ça va donner ». Et voilà, je suis toujours un adolescent avec beaucoup de questions, et le jour du rendu du devoir, les devoirs sont rendus, la prof de français rend les trucs, et moi j'ai rien. Et j'arrive en dernier, je me dis « Oulala, je vais me faire allumer
ouais. ».
Et j'ai un 20 sur 20, ce qui n'arrive jamais en français.
Ben non.
Elle me rend le truc, et elle vient me dire, écoute, franchement, je m'attendais pas du tout à lire ça, c'était bien écrit, et je suis là en train de me dire, waouh, j'ai 20 sur 20, en racontant tout simplement cette histoire. Il y a peut-être quelque chose à faire dans la vie, et peut-être que raconter des histoires est quelque chose qui peut correspondre à ce que je suis.
J'ai deux questions. La première, c'est quoi la nature de vos relations ? C'est d'homme à homme ? Tu nous expliques bien qu'il veut te former, puisqu'il t'envoie apprendre les langues, puisqu'il te fout sur des skis sur une piste noire. C'est sa façon violente, mais de t'apprendre quelque chose aussi. Donc, il a cette relation Fabrice, je suis ton père, ou c'est plutôt d'homme-homme maintenant que tu es grand. D'ailleurs, il t'explique pourquoi il a attendu tellement de temps avant de prendre contact avec toi.
Il va me l'expliquer assez vite, et c'est assez caractéristique du monsieur. C'est à la fois brutal, cynique et honnête. C'est-à-dire, il va m'expliquer que les jeunes enfants ne l'intéressent pas. Que ce qui l'intéresse, effectivement, c'est que ma mère lui a dit apparemment que j'étais pas totalement idiot, que j'écrivais bien, que j'étais un garçon plutôt intelligent. Et donc, il se dit, et il me dit, en face à face, élever des enfants, ça m'intéresse pas. Élever un adolescent ou un futur adulte, ça oui. Et il a déjà tout un plan de carrière pour moi, en fait. Il me projette en me disant, après ton bac, je m'occupe de toi, tu vas faire Sciences Po, tu vas partir ensuite aux États-Unis dans une fac, tu reviens et tu seras journaliste au Monde, puisque tu as envie d'être journaliste, apparemment. Et moi, ça me rassure pas du tout, et je suis évidemment en bon adolescent, je me dis, je vais faire exactement l'inverse, ce qui ne va pas simplifier les rapports. Mais oui, il avait cette volonté de me modeler un peu à son image. Puisque c'était le type de parcours que lui avait suivi.
Justement, est-ce que tu peux me parler un peu de son parcours, rapidement, parce que c'est toi qui m'intéresse, mais surtout, par association d'idées, ma deuxième question c'était, et sa famille à lui, tu les rencontres, c'est quel genre de gens, est-ce que, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe?
C'est sans doute la plus grande surprise de ma vie. Je rentre dans un milieu dont je n'imaginais même pas l'existence. C'est-à-dire, j'ai grandi dans une ville de province, dans un milieu plutôt à gauche, très marqué à gauche, très culturel, et je me retrouve avec un père qui, lui, vient de la grande bourgeoisie française, issu de la Révolution, enfin, des Trente Glorieuses, une famille riche, même très riche, qui a des intérêts économiques relativement importants à l'époque, et je passe, en gros, d'un appartement de ville de province, avec une mère professeure dont les revenus sont plutôt modestes. Et lorsque j'arrive pour la première fois à Paris, je me retrouve rue de Varennes, à deux maisons des bureaux du Premier ministre, dans un appartement somptueux de 300 mètres carrés, et avec des gens dont je n'imaginais pas l'existence, des bijoutiers, des grands reporters, des écrivains, des ingénieurs qui travaillent à la NASA, à l'international.
Ça, c'est les amis de ton père ?
Oui, ce sont les amis de mon père, et qui m'accueille finalement plutôt gentiment, avec une certaine curiosité. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Je suis plutôt bien accueilli, et mon père est marié. Il a une femme, elle-même issue d'un milieu bourgeois parisien. Et finalement, j'arrive là-dedans, je découvre, je suis un peu maladroit. Et ce qui se passe, c'est que je suis accepté par mon grand-père paternel, le père de mon père.
Ah, donc il te fait rencontrer tout le monde.
Qui était lui aussi une figure de patriarche, finalement assez semblable à celle de mon grand-père italien.
D'accord, mais en version immensément riche.
Mais en version capitaine d'industrie des années 50 à 70.
Ok.
Quelqu'un qui était vraiment un self-made man, qui avait monté un réseau d'entreprises sur les pétroles, charbon, qui avait monté, qui a fait beaucoup d'argent à l'international, en France. Et mon père me présente à lui, c'était au début des années 80, et je comprends qu'effectivement, étant accepté par ce grand-père, je rentre officiellement dans une nouvelle famille. Et ce grand-père me salue très gentiment, me serre la main devant tout le monde, on est dans une soirée, il y a plus d'une centaine de personnes, et je comprends que c'est une espèce d'adoubement, je fais partie de cette nouvelle famille, où personne ne me connaissait et dans laquelle je fais irruption alors que je suis un adolescent et que je n'ai jamais grandi avec eux et on n'a absolument aucun point commun d'un point de vue histoire, familial ou culturel. Et ce grand-père va mourir malheureusement quelques mois après, je ne le reverrai jamais.
D'accord. Et il a une femme ?
Il a des cousins, femme, il a des enfants et avec qui je vais grandir à partir de mes 18 ans.
C'est-à-dire qu'à 18 ans, tu quittes ta maman pour aller vivre avec ton père ?
Après le baccalauréat, je prends une valise et effectivement, je quitte ma petite vie provinciale pour arriver à Paris et loger rue de Varennes avec de grandes questions, de grandes inquiétudes. J'étais un bon élève, j'étais un curieux Et j'arrive à Paris en ayant un peu le bagage d'un bon élève qui a bien réussi. Et mon père me met dans une préparation Sciences Po et je me vautre, mais fondamentalement. Et surtout, je me rends
le
compte que
si j'étais parfait à 100%, là.
Voilà. Et si j'étais le numéro un dans ma petite ville, à Paris, je n'étais rien. Et il a fallu que je me reconstruise totalement, puisque je me suis rendu compte que être le premier à avoir des 20 sur 20 en français dans cette ville, c'est gentil, mais à Paris, ça n'intéresse personne. Et ça n'a aucune valeur et que personne n'en a même conscience. Et au contraire, tout le monde a conscience de façon très précise que je ne maîtrise pas les codes sociaux, que je ne fais pas partie de ce monde, que je ne suis pas habillé comme eux, que je ne parle pas comme eux, et que j'arrive là-dedans un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Et je vais devoir apprendre tous ces codes.
Et tu les apprends avec ton père, tu les apprends avec donc cette grand-mère qu'on a juste effleurée, mais je crois qu'elle existe, elle a existé dans ta vie. Tu pars en vacances avec eux. Comment ça se passe, ton acclimatation dans ce nouveau monde ?
Progressivement, beaucoup de repas familiaux.
Okay.
Il y avait une cellule familiale qui fonctionnait très bien à ce moment-là. Même après le décès de mon grand-père, sa veuve, continue à réunir la famille le dimanche. Il y a des déjeuners familiaux. On se retrouve aussi au château familial, puisqu'il y a un château.
Ah oui, d'accord, il y a un château.
Il y a un château, il y a des grandes propriétés, il y a beaucoup d'argent. Effectivement, tout ça, il y a de belles maisons à Saint-Germain-des-Prés. Et je vais déménager d'ailleurs dans une chambre de bonne à Saint-Germain-des-Prés, dans l'immeuble où vit ma grand-mère paternelle.
Ouais.
Et je découvre tout ce monde qui vit dans l'aisance, qui vit dans une facilité, qui est un monde riche, passionnant à découvrir.
Mais un monde sans angoisse, quoi, sans peur du lendemain.
Un monde sans angoisse, mais qui en même temps gère des entreprises. Et par exemple, mon père, une des premières choses qu'il fait, il me met à travailler dans son usine.
Ouais.
Il est propriétaire d'une usine de parfums en particulier. Et j'arrive et pendant un mois, je vais travailler à l'usine à emballer des parfums, à faire des emballages plastiques. Et en fait, moi, je trouve ça très bien, parce que ça me permet à la fois d'être en contact avec les ouvriers, avec qui je me sentais à l'aise, tout en gardant le contact avec le patron. Et là, je me suis rendu compte que finalement, c'était plus... Lorsque les ouvriers se sont rendus compte que j'étais le fils du patron, je me suis rendu compte que j'allais avoir beaucoup de mal à gérer les deux aspects culturels de ma vie.
Tu peux pas avoir un pied dans chaque camp.
Voilà, et les ouvriers m'ont fait comprendre...
Chaque camp te le dit, quoi.
Voilà, on m'a fait comprendre que... Il y a deux camps qui s'affrontent,
ouais,
et que je ne pouvais pas être dans les deux camps à la fois. Et j'ai dû apprendre et je me suis intégré à cette nouvelle famille. J'ai appris les codes, j'ai fait des études, j'ai raté mes études, j'ai avancé, j'ai rencontré des gens et j'ai appris à vivre dans cette grande bourgeoisie insouciante, riche et en même temps très active, très entrepreneuriale. Qui mène des projets culturels, qui mène des projets industriels, qui mène des entreprises de presse. Et je découvre tout cet aspect que je n'imaginais pas avec ma mère.
Et d'ailleurs, tu gardes des... C'est quoi tes relations avec ta mère et puis avec tes grands-parents maternels à ce moment-là, pendant ta vingtaine?
Alors, au début, si mes souvenirs sont bons, je crois que pendant presque 2 ans, je coupe quasiment tout contact avec eux. Au bout de 2 ans, ma mère et mes grands-parents me font comprendre qu'ils aimeraient bien me revoir. Et j'ai beaucoup, beaucoup de mal, même physiquement, à y retourner. Parce que une coupure était plus simple à gérer que les deux relations. La rupture était tellement brutale que je me disais, il vaut mieux couper les échanges plutôt que garder les échanges. C'est peut-être pas juste, c'est peut-être pas gentil, mais c'était plus simple à gérer. Et je me souviens, alors, d'un côté, je sentais le besoin d'aller les revoir, et au bout de 2 ans d'échanges téléphoniques, etc., on me dit, bah, quand même, on aimerait te revoir et tout, je prends un billet de train, et jusqu'à la dernière minute, je me dis, ah, je suis malade, là, j'ai des crampes d'estomac, je peux pas y aller. Et je vais quand même dans le train, je monte dans le train, et dès que je suis dans le train, ça va mieux. Je sens toute la tension descendre et je rentre chez moi. Et je retrouve mes grands-parents, je retrouve ma mère, et je renoue les liens avec eux. Et je me rends compte que je peux pas couper cet aspect de ma vie. Parce que même physiquement, c'est pas possible, c'est s'amputer de la moitié de ce qu'on est.
Donc ça te fait du bien d'y retourner?
Ça me fait du bien, je retrouve mes grands-parents avec beaucoup de tendresse. Je m'aperçois qu'ils le vivent même plutôt mieux que ma mère, pour qui c'est extrêmement compliqué. On va avoir des rapports difficiles, mais à partir de ce moment-là, je vais revenir quand même régulièrement, échanger, appeler, reprendre un peu, et garder ces deux aspects de ma vie, et apprendre à gérer finalement ces deux mondes si différents, qui auraient jamais dû se rencontrer.
Alors, on va pas détailler ta vie après, parce que tu as été reporter de guerre, et ça peut faire un épisode à part entière. Parce que vraiment, je vous assure, ça peut faire un épisode à part entière, vous qui nous écoutez. Mais on va rester concentré sur cette trajectoire familiale. Après, en fait, quand on écoute ton histoire, on dirait qu'il n'y a que des ruptures. La rupture de ta première... je compte pas quand tu arrives chez tes grands-parents, mais ton départ de chez tes grands-parents. Ensuite, ton départ de cette petite ville et de chez ta mère pour aller à la découverte d'un autre monde et plutôt auprès de ton père. Là, on se dit, bon, bah, ça y est, t'as réussi à trouver un équilibre. La vie est belle. Ça va, pendant des décennies et fort, et pour toujours. La vie est belle et ça va continuer comme ça. Tu as des relations avec deux. T'as réunifié autour de toi ta famille maternelle et paternelle. Et donc, tout va bien.
Je ne dirais pas que la vie est belle. La vie est compliqué. C'est certainement la période la plus compliquée. J'ai une vingtaine d'années, donc à ce moment-là, les années passent, et j'ai le souvenir d'une vie extraordinairement complexe à gérer, dont on se passerait bien à cet âge-là, parce que c'est un âge où on a envie d'avancer, d'avoir des projets. Et heureusement, je trouve effectivement dans le journalisme une capacité finalement à concilier ces mondes différents. Puisque j'ai la chance extraordinaire d'être passé un peu de l'autre côté du miroir et d'avoir pu rencontrer un monde qu'on n'imagine pas pour 95% de la population. Et en tant que journaliste, ça me permet de comprendre les points de vue et d'évaluer les différents points de vue et de parler à des gens très différents. C'est ce qui va.
Pardon, mais tu parles de ta famille ou tu parles des gens pendant la guerre?
Alors, je parle en tant que comment j'ai essayé de concilier ces deux aspects. Mais avec ma famille, je me rends compte que à la fois les choses paraissent simples, et finalement, au fil des mois, au fil des années, je me rends compte que c'est pas si simple. Que cette nouvelle famille est plutôt accueillante, mais que les choses ne se passent pas aussi simplement qu'on peut imaginer. Et je me rends compte, au cours d'un épisode, qu'il y a une façade, et que derrière cette façade, les choses ne sont pas aussi chaleureuses que je l'imaginais. Mon arrière-grand-mère décède, elle a 105 ans, c'est une dame qui a une histoire incroyable, et que je vois donc depuis mes 18 ans. Elle décède, et je la connais depuis une dizaine d'années, donc. On a déjeuné ensemble à de nombreuses reprises, on a échangé, la famille le connaît. Et un jour, j'appelle une de mes cousines, pour échanger avec elle, et elle me dit « Ah, tu me déranges, je suis à l'enterrement de mamie 2. » Et là, je lui dis « Ah bon? Mais comment ça, vous, elle est morte ?» Je dis « Bah oui, on est en train de l'enterrer. » Je dis « Mais vous m'avez pas prévenu. » Personne n'avait songé une seconde que je pouvais être invité. Et je vois qu'il y a des signes comme ça où je fais partie de la famille, mais en même temps, c'est compliqué, c'est pas si simple. On te fait comprendre, il y a plein de petits codes, de petits signes, d'invitations, d'ironie, de cynisme qu'on apprend à décoder au fur et à mesure, où on se rend compte que, déjà, je ne porte pas le nom de mon père. Mon père me propose de prendre son nom, et donc de m'accepter, de me reconnaître officiellement.
Ah, voilà, c'est ça que j'allais te dire, donc c'est une reconnaissance administrative.
Voilà, et je refuse à mes 18 ans.
Pourquoi?
Parce que je le connais pas, tout simplement. Parce que je connais pas cet univers et que mon identité n'est pas son nom.
Oui.
Et donc, je lui dis, non. Et il faudra plus d'une dizaine d'années pour que j'accepte et que je lui dise, d'accord, maintenant, je me sens prêt à prendre ce nom.
Donc un jour, tu lui annonces ?
Et un jour, je lui dis, si tu es toujours d'accord, je veux bien prendre le nom, et on va à la mairie, il me reconnaît officiellement, et je vois qu'il fait la tête, je vois, c'est pas chaleureux, c'est pas...
Alors que je me disais... C'est pas la fête que ça devrait être.
C'est pas l'événement que j'attendais. Et je me rends compte qu'à partir du moment où je prends officiellement le nom, les attitudes autour de moi vont aussi changer.
Et alors, qu'est-ce qui se passe ?
Je me rends compte que, à partir du moment où je rentre officiellement dans le cercle familial, c'est-à-dire plus seulement de façon casuelle, c'est-à-dire je deviens un membre à part entière de la famille...
À partir du moment où tu peux revendiquer de l'héritage, quoi. Pardon, oui, on pense tout c'est... à ça.
Voilà, on va dire les choses simplement. Effectivement, à partir du moment où les questions d'argent rentrent en jeu, les rapports vont changer et pas de façon très agréable.
Et donc, t'as quel âge, là ?
Là, je vais sur mes 30 ans. Je travaille comme journaliste. Et effectivement, c'est la période où je commence à couvrir des conflits, à voyager en Europe centrale, orientale. Je pars au Liban. Et effectivement, je suis fasciné depuis longtemps par le reportage de guerre. Et c'est effectivement la voie que je vais choisir pendant quelques années.
Et donc, concrètement, les gens te tournent le dos ou les gens te disent des choses dans les yeux pas sympas, des gens qui étaient sympas juste un an avant ?
Non, les choses... Ça se passe pas comme ça dans la bourgeoisie. On dit pas les choses méchamment, sauf si on en est vraiment au point de conflictualité où on n'a pas le choix. On fait comprendre, on fait entendre, on laisse supposer. On glisse des mots et des remarques blessantes, mais qui peuvent être prises comme de l'humour. Et je m'aperçois, parce qu'à 30 ans, on devient plus lucide, on apprend à décoder tout ça. Et c'est là où je réalise que je ne suis pas vraiment membre de la famille. Où je m'aperçois que l'héritage de mon grand-père a été partagé entre ses enfants. Mon grand-père est mort, il a laissé une grande fortune derrière lui. Ses enfants se disputent cette fortune, et je suis sur les lignes de succession. Et ça perturbe beaucoup de gens. Mon père va divorcer.
Ton père avait d'autres enfants ?
Mon père n'a pas d'autres enfants, non. D'accord. Je suis fils unique.
D'accord, donc ton père divorce, pardon, oui.
Mon père divorce, et il va se remarier... à la fin des années 90, début des années 2000, avec une dame que je connais, que je fréquente, puisqu'on se voit le week-end, on part ensemble à la campagne. Elle est extrêmement aimable avec elle, je lui apprends beaucoup de choses, à se servir d'un ordinateur, d'une souris, à travailler ses textes, elle est très contente. Et le jour du mariage, elle me regarde et elle me dit « Fabrice, vous n'aurez pas un centime ». Et là, je me rends compte, et le jour du mariage... Dans un grand château de Normandie, il y a plus d'une centaine d'invités, c'est très chic, c'est très agréable, c'est très beau, toute la famille est présente, les amis sont présents, je connais beaucoup de monde. Mon père vient à table, et devant tout le monde, il me regarde et il me dit « Ah, c'est Fabrice, c'est mon fils, je l'ai fait en culbutant sa mère dans un fossé. »
Tu m'as coupé la chic, excuse-moi.
Ça m'a coupé la chic aussi, et je me suis levé de table. Je l'ai regardé, j'étais avec ma compagne, qui m'accompagne encore aujourd'hui, et je l'ai regardé en disant « Michel, c'est son prénom, je vais pas te casser la gueule devant tes invités, donc je préfère partir. » Et ce jour-là, nos rapports se sont radicalement effondrés.
Donc c'est une deuxième déflagration folle.
Et c'est effectivement une déflagration, c'est extrêmement violent, puisque au fil des années, j'avais construit une relation de confiance avec lui. On se parlait, on échangeait beaucoup. Il m'a appris énormément de choses, il était très cultivé, très curieux, il a fait beaucoup de choses. Il avait des journaux, il avait des entreprises, il a fait de la politique. C'est quelqu'un qui m'a ouvert des portes extraordinaires. Et ce jour-là, parce qu'il se remarie avec une dame qui elle-même a une certaine fortune, je me heurte à cette violence absolue de l'argent et à la lâcheté de mon père qui, pour faire plaisir à sa nouvelle épouse, préfère couper les ponts avec moi. Et elle va me dire très rapidement que je ne suis plus le bienvenu à la maison ma belle-mère, effectivement, va détruire notre relation très rapidement.
C'est-à-dire que juste parce qu'elle a peur... Bon, on va pas rentrer dans les détails administratifs entre eux, mais juste parce qu'elle a peur que tu aies une part d'héritage de l'argent de son père ou pourquoi pas du sien, elle t'interdit de fréquenter ton père. Donc tu vois plus ton père à partir de ce moment-là ?
Je le vois, mais alors il nous arrive de dîner ensemble. Il vient me voir quand j'ai mes premiers enfants. Enfin, quand j'ai mes enfants, il est présent. Mais quand son épouse est présente, c'est très distant et même très violent parce que il se permet, par exemple, d'être extrêmement méchant avec mes enfants, avec ma fille en particulier. Il s'amuse à la faire pleurer, à lui raconter des méchancetés. Et curieusement, quand son épouse n'est pas là, quand je suis en tête-à-tête avec lui, on retrouve les rapports normaux qu'on a eus. Les discussions, les échanges politiques, culturels, historiques qu'on avait. Et je me rends compte que il aime beaucoup cette femme. Il l'a jamais caché, il a été très amoureux d'elle. Et donc pour lui, le choix a été clair, il vit avec elle, elle ne m'aime pas, et que donc, bah, tant pis pour moi. Et c'est ça qui va se passer dans la deuxième partie de notre relation. Et c'est triste parce que c'est aussi la période où toute sa splendeur s'effondre, part en fumée. Il va être ruiné, il va tout perdre. Et au fil des années, le château, les chevaux, l'équipe de polo, les parfums, les journaux, tout ça va disparaître. Tout ça va disparaître, et je le vois s'isoler, finalement, perdre tous ses amis, parce que quand on n'a plus d'argent, quand on n'a plus de pouvoir, dans ce monde, on a beaucoup moins d'amis, et je le vois devenir seul, amer, et rabâcher un peu que ça va pas bien. Il tombe malade, il déprime, il a des AVC, bref, sa vie...
Décline. Devient quoi sa femme ?
Elle vit avec lui. Ils ont des rapports complexes, mais ils ont une relation assez, assez passionnelle, je crois.
Et sa fortune, elle n'en fait pas profiter son mari qui perd de sa splendeur ?
Honnêtement, j'en sais rien. Je sais qu'effectivement, elle estimait que sa fortune devait revenir à sa fille et que c'était pour elle très clair que sa fille devait hériter. Ce qui en soi, moi, me semblait parfaitement naturel. Je me sentais aucun droit et je n'ai jamais réclamé le moindre centime à cette dame.
Mais est-ce que tu sais pourquoi déjà, avec tout l'argent dont ton père a hérité et qu'il a gagné, pourquoi il a eu ce revers de fortune ? Pour une fois, l'expression est vraiment adaptée.
On dit souvent que ce que les parents gagnent, les enfants le dépensent. Et bah, ça s'est bien vérifié, puisque ça n'a pas été le seul de la famille. Mais je crois qu'il a voulu un peu suivre l'exemple de mon grand-père, donc de son père, qui était vraiment un capitaine d'industrie de grande ampleur. Et bah, tout le monde n'a pas cette réussite. Il a monté des entreprises qui n'ont pas fonctionné. Il était passionné par les parfums, il a importé des produits japonais, il avait des journaux, des lettres spécialisées, des choses qui le passionnaient, mais c'était pas un bon gestionnaire, je crois. Ce que j'ai découvert au fur et à mesure, et même dans sa carrière politique, il a fait des choses...
Je savais pas qu'il avait une carrière politique.
Il avait une carrière politique dans les années 70, il était très fier d'accompagner Jacques Chirac, il avait des ambitions politiques qui n'ont pas fonctionné, parce que c'est un milieu compliqué, parfois cruel, violent... Et il a payé assez cher. Il a eu des procès, il a perdu. Et j'ai vu au fur et à mesure qu'en fait, il se pensait tellement... il ne concevait que la réussite et donc prenait des risques que son grand-père n'aurait jamais envisagés. Et il a fait finalement des erreurs de débutant qui ne pardonnent pas.
Il a fait confiance à des gens qui l'ont trahi ?
Il a fait confiance à des gens qui l'ont trahi, qui étaient très contents de profiter de sa fortune, de ses œuvres d'art, de ses tableaux, de ses dîners, de ses belles réceptions, de la rue de Varennes. Et tous ces gens-là se sont évaporés au fur et à mesure.
Alors, on fait ni son procès, ni son portrait, mais on peut dire qu'il a manqué un peu de nez parce que... Il n'a pas fait confiance, il n'a pas mis son affection et son temps et son énergie sur les bonnes personnes.
Je n'arrive pas à le juger toujours. J'arrive même pas. Moi, je vois la vie qu'il a eue et c'est simplement pour moi une source d'enseignement. Ça m'a appris beaucoup de choses sur la lâcheté des gens, sur la différence entre être cultivé et être intelligent, sur les erreurs qu'on peut faire et les rapports à l'argent. Mais c'est mon père. Et je l'ai aimé profondément. On se ressemblait beaucoup, finalement, ce qui m'a toujours surpris.
Physiquement, tu veux dire ?
Physiquement, je suis arrivé à Paris. J'étais un jeune Rital aux cheveux longs, bouclés, bruns. Et en grandissant, en vieillissant, je suis devenu quasiment son portrait craché, au point que sa mère nous confondait à la fin de sa vie. Ce qui était très perturbant. C'est...
Donc, on l'a dit sans le dire, mais ton papa est décédé.
Il est décédé, effectivement.
Dans une relative solitude.
Il est décédé tout seul, dans une petite maison de province. Et oui, dans une solitude totale.
Qu'est-ce qui te décide aujourd'hui à raconter cette histoire qui est épique? Je te dis ça parce que pour moi elle est plus que digne d'être racontée, mais qu'est-ce qui toi intimement te dessine à raconter ça?
C'est une bonne question. D'abord, c'est pas une histoire que je raconte pour la première fois, j'en ai parlé à des proches, à des amis, mais effectivement c'est quelque chose qui est resté dans le cercle. Aujourd'hui ce cercle n'existe plus. Depuis son décès, effectivement, les liens avec cette famille bourgeoise, parisienne, n'existent plus. Avec son décès, avec les affaires d'héritage, de succession, curieusement, toute cette famille que j'ai fréquentée pendant plus de 30 ans ne me parle plus. Et m'a même dit de façon très claire que je ne faisais pas partie de la famille, bien que je porte leur nom, et bien qu'on ait dîné ensemble pendant 30 ans. Donc aujourd'hui, je me sens pas lié. Et je me dis, c'est important aussi de se dire, on peut avoir des ruptures comme ça extrêmement violentes. Et en même temps, je me sens pas victime. J'ai au contraire l'impression d'avoir eu une chance extraordinaire. C'est ce que j'essaye aussi de transmettre à mes enfants. C'est une richesse que je n'aurais jamais imaginée. Et très peu de gens, finalement, ont cette chance de pouvoir passer d'un milieu à l'autre. De traverser le miroir et de voir ce qui se passe de l'autre côté. On est dans une société extrêmement clivée, on est dans une société où les gens ne se parlent pas lorsqu'on est d'opinions politiques différentes, lorsqu'on est de milieux sociaux différents, et j'ai eu cette chance de pouvoir traverser les deux, de parler aux deux, d'échanger. C'est ce que je fais aussi dans mon travail de journaliste, c'est parler à des gens extrêmement différents. Des ministres, des députés, des agriculteurs, des professeurs, des gens qui vendent des tracteurs, et des gens qui font des politiques européennes. C'est un peu ce qui, le plaisir même de ma vie et le sel de ma vie. Et ça, mon père me l'a apporté. C'est quelque chose, je lui suis profondément reconnaissant. Et je pense que d'une façon, je peux lui rendre hommage de cette façon-là. Mais il faut pas cacher la réalité. L'attitude qu'il a eue était pas très agréable. L'attitude qu'il a eue était blessante, était violente. Et pour mes enfants, je me rends compte encore aujourd'hui, maintenant qu'ils sont grands, qu'ils sont presque majeurs, qui a de grands questionnements, puisqu'ils ont connu mon père, ils ont connu cette famille. Et aujourd'hui, ils s'aperçoivent que les liens sont coupés, et je veux leur expliquer aussi cet héritage qu'ils vont eux aussi devoir gérer derrière.
De tout ce récit, c'est maintenant que tu es le plus ému. Quand tu parles de tes enfants, est-ce que la façon de... que tes parents ont eu d'être parents. Tu as eu ça en tête quand tu as eu des enfants et dans ta façon d'être un papa?
Totalement. Totalement. Et c'est effectivement une des premières choses que j'ai pensées, c'est que je n'abandonnerai jamais mes enfants. C'était une évidence pour moi. Quelle que soit la situation, je ne pouvais pas physiquement me dire je vais les abandonner, je vais les laisser. J'ai eu des échanges extrêmement brutaux avec ma mère, mais finalement très honnêtes, lorsque j'ai eu mon premier enfant, où je lui reprochais de ne pas savoir s'occuper d'un enfant. Et finalement, ça nous a permis à ce moment-là de commencer à parler de ce que j'avais vécu, et elle a commencé à ce moment-là à m'expliquer ce qu'elle avait traversé. Sa solitude, sa souffrance, c'est le fait que à 20 ans, on n'a pas obligatoirement envie de s'occuper d'un enfant, et mais effectivement, avoir des enfants, ça a été me mettre face à ces histoires de parentalité que pendant très longtemps, j'avais refusé. Pendant très longtemps, je m'étais dit, je n'aurai pas d'enfant.
Ah oui?
Oui. Et c'était... Il a fallu vraiment que les années passent et effectivement que je sorte aussi de cette logique, pour être honnête, un peu autodestructrice que j'avais en tant que reporter de guerre et dont je suis sorti en me disant, j'ai le choix. Soit je me tue au travail, soit je...
Ou je suis tué au travail.
Je suis tué au travail, je vais me faire trouer la peau, je prends des risques, trop de risques. Soit je décide de vivre, d'arrêter et de construire quelque chose qui sera peut-être moins exaltant, qui sera peut-être moins risqué, où il y aura moins d'adrénaline, mais où je ne vais pas mourir demain. Ce qui a son charme.